yo tengo un deseo, una preocupación de esperanza.
C'est-à-dire que j'espère que la personne va se trouver mieux.
Es decir, que yo espero que la persona se va a encontrar mejor.
J'espère que la personne va être touchée dans son cœur aussi.
Y también espero que esa persona vaya a estar tocada en su corazón también.
Que peut-être elle va grandir dans sa rencontre avec Dieu.
Y que quizás vaya a crecer en su encuentro con Dios.
J'espère qu'elle va être guérie.
Espero que vaya a ser sanada.
Ou que ça va être une bonne solution ce qu'on lui propose.
Y aunque eso que le proponen va a ser una buena solución.
Mais le résultat réel.
Pero el resultado real.
Ça ne dépend pas de moi.
No depende de mí.
Ça ne fait pas partie de ma mission.
No forma parte de mi misión.
Ça en ferait partie si c'était moi qui m'envoyais moi-même.
Formaría parte de mi misión si fuera que yo me enviara a mí mismo.
Eso sería la catástrofe.
Y eso sería una catástrofe.
Car je deviendrais prisonnier de l'impuissance.
Porque yo sería preso de la impotencia.
Et plus on est prisonnier de notre impuissance,
y cuanto más somos presos de nuestra impotencia,
plus on devient orgueilleux.
Más orgullosos nos hacemos.
Et là on devient serviteur.
Y nos hacemos menos servidores.
Serviteur de la personne humaine qui souffre.
Servidor de esa persona que sufre.
Et serviteur de la vie.
Y servidor de la vida.
Alors, c'est le premier point.
Así es el primer punto.
Grandir dans la conscience d'être envoyé par le Christ.
Crecer en la conciencia de ser enviado por Cristo.
C'est une question d'acte de foi.
Es una cuestión de acto de fe.
Que je suis invité à répéter jour après jour.
Que soy invitado a repetir día tras día,
plusieurs fois par jour,
varias veces al día,
et peut-être à chaque fois que je vais me trouver devant un nouveau malade.
Y quizás cada vez que yo me encuentre entre un nuevo enfermo.
Ça relève de nos petits trucs à nous, de nos petits trucs spirituels à nous, les soignants.
Estas son pequeñas cosas espirituales que trucos.
C'est-à-dire des petits moyens très personnels.
Son pequeños modos muy personales.
Pour trouver comment faire un acte de foi.
Para encontrar cómo hacer un acto de fe.
Le plus souvent possible dans la journée.
Lo más a menudo posible en el día.
Ou dans la nuit.
O en la noche.
Alors que nous sommes par ailleurs chargés et peut-être surchargés d'activités professionnelles.
Cuando nosotros estemos cargados o sobrecargados de una actividad profesional.
La conscience d'être envoyé.
La conciencia de ser enviado.
C'est le Christ qui envoie.
Es Cristo el que envía.
Mais on a besoin de médiation.
Pero tenemos necesidad de una mediación.
C'est le mystère de l'Église.
Es el misterio de la Iglesia.
Je veux dire que si c'est le Christ qui envoie tous les soignants.
Es decir, que si yo digo que Cristo envía todos los
sanitarios. Dans les multiples directions possibles.
En las más múltiples direcciones posibles.
Il y a quand même des médiations d'église.
De todos modos hay una mediación de la Iglesia.
Qui sont comme des intermédiaires de l'envoi.
Que son como intermediarios del envío.
Exemple.
Un ejemplo.
Exemple. Le renouveau charismatique espagnol.
La renovación carismática española.
Les charismatiques espagnols.
Los carismáticos españoles.
Sont appelés, ils ont une vocation à très large.
Están llamados y tienen una vocación muy amplia.
Qui est surtout dans l'ordre de la prière.
Que sobre todo está enfocado en la oración.
Et de la prière personnelle et de la prière communautaire, en groupe.
de la oración personal, de la oración en grupo,
y aussi avec des œuvres. Des œuvres qui peuvent déborder de cette vie de prière charismatique.
Y también obras que pueden desbordar esa oración carismática.
Mais la plus grande de ces œuvres, c'est toujours l'exercice des charismes.
Pero la obra más grande, sobre todo, es el ejercicio de los carismas.
Car je crois comprendre que renouveau charismatique.
Porque yo creo comprender que renovación carismática.
Ça veut dire renouveau des charismes.
Quiere decir renovación de los carismas.
Mais pour qu'ils soient renouvelés, les charismes.
Pero para que esos carismas sean renovados.
Il faut peut-être commencer par les exercer.
Quizás haya que comenzar por ejercerlos.
Tous les charismes.
Todos los carismas.
Pas un petit charisme comme ça, de temps.
No un pequeño carisma.
Il faut se rappeler ce que saint Paul dit des charismes.
Hay que recordar lo que nos dice San Pablo de los carismas.
Tout ça, c'est dans la vocation du renouveau charismatique.
Todo eso está en la vocación de la renovación carismática.
Mais un charismatique tout seul.
Pero un carismático solo.
Il va à sa perte.
Va a perderse.
Il ne restera pas charismatique longtemps.
Él no va a mantenerse carismático mucho tiempo.
Il a besoin d'une communion.
Necesita una comunión.
C'est-à-dire les groupes de prière.
Es decir, el grupo de oración, por ejemplo.
Ce sont des lieux de communion.
Esos son lugares de comunión.
Mais il a besoin aussi, ce charismatique-là.
Pero ese carismático también necesita
d'être envoyé.
De ser enviado.
Qui l'envoie?
¿Y quién le envía?
Le Christ.
Cristo.
Et qui est médiation de cet envoi?
Pero ¿quién es la mediación, el intermediario de ese envío?
C'est l'Église.
Es la Iglesia.
Mais qui dans l'Église?
Pero ¿quién en la Iglesia?
Eh bien, celui ou celle ou ceux qui ont l'autorité spirituelle pour représenter la grâce du renouveau charismatique.
Es aquel o aquellos que tienen la gracia de representar la autoridad carismática.
Ce sont des responsables de groupes de prière, ce sont les responsables régionaux ou nationaux qui envoient les charismatiques dans leur grâce.
Son los responsables de los grupos carismáticos, de la dirección de la renovación carismática, los que envían en esa gracia.
Aquí hay otro tweet que los responsables del renouveau español no me han rien du tout promis pour que je dise ça.
Los enviados de la renovación, los jefes de la renovación carismática de España no me han dicho, no me han prometido nada porque yo diga esto.
Nous avons besoin de cet envoi pour qu'il y ait une fécondité dans notre vocation.
Pero hace falta que nos envíen para que haya una fecundidad en nuestra vocación.
Et c'est pareil pour les soignants.
Pero también es lo mismo para los sanitarios.
Ils peuvent porter un appel particulier, on y reviendra tout à l'heure.
Ellos pueden llevar una llamada especial.
Ils peuvent avoir un cœur de servir. Les souffrant d'une certaine manière.
Ellos pueden tener un corazón para servir a los que sufren de una forma especial.
Ils peuvent avoir à cœur de se rendre proche de certaines catégories de malades plutôt que d'autres.
Ellos pueden tener una llamada a servir a cierta categoría de enfermos.
C'est bien.
Eso está bien.
Mais est-ce qu'ils sont envoyés?
Pero ¿son enviados?
S'ils ne sont pas envoyés,
si no son enviados,
il faut qu'ils cherchent à être envoyés au plus vite.
Hace falta que ellos busquen ser enviados lo más rápidamente posible.
Et comment être envoyés?
¿Y cómo ser enviados?
Eh bien, il faut susciter des structures, même petites, qui sont représentatives d'une vision prophétique, d'une mission prophétique.
Hace falta hacer una pequeña estructura, aunque sea muy pequeña, para buscar una visión profética.
Oui, prophétique.
Sí, una misión profética.
Il faut que ce soit une instance dans l'Église.
Hace falta que sea una instancia en la Iglesia
qui représente leur, comment dire, qui représente leur souhait, leur désir,
que represente su deseo,
et qui soit reconnue par l'Église.
Y que sea reconocida por la Iglesia.
Et ça, c'est important.
Y eso es importante.
Oui, je rajouterai ça pour cet après-midi.
Esta tarde voy a añadir otras cosas.
Et ça, on manque d'audace.
Y hay una falta de audacia.
Moi, dans un témoignage personnel, pour terminer.
En un testimonio personal, para terminar.
C'est comme ça qu'est née l'œuvre Mère de Miséricorde.
Es así como nació la obra Madre de Misericordia.
Il y avait beaucoup de personnes là en France ou dans l'endroit, dans la région où je vivais.
Y había muchas personas en Francia, en la región donde yo vivía.
Et même plus largement dans toute la France.
Y también en toda Francia.
Qui étaient très interpellées pour faire quelque chose de chrétien. Pour défendre la vie à son commencement.
Que tenían un llamado muy fuerte para poder hacer algo por estas personas para el comienzo de la vida.
Et donc toute la question de l'avortement.
Y entonces toda esta cuestión del aborto.
Et comment donc trouver des solutions qui évitent l'avortement?
Y pues poder encontrar una solución para evitar los abortos.
Ou bien qui propose aussi des chemins de guérison pour les personnes blessées par l'avortement.
O también encontrar solución de una sanación para esas personas que están heridas por haber abortado.
Ben, il y avait donc un nombre certain de personnes, chacun dans leur endroit.
Había una serie de personas, cada uno en su sitio.
Et chacune de ces personnes avait ce souci très beau dans leur cœur.
Y cada una de estas personas tenía esa preocupación en su corazón, pero estaban solas. Y se tuvo la idea de hacer un movimiento de iglesia que se llama Madre de Misericordia, que está reconocida por la iglesia
según su objetivo de misión.
Su objetivo de misión.
Et c'est comme ça qu'on peut dire que nous sommes envoyés.
Y es así como podemos decir que somos enviados.
Parce que l'Église nous transmet l'envoi de Jésus.
Porque la Iglesia nos transmite el envío de Jesús para todos.
Et c'est cet envoi qui fait notre communion.
Y este envío es el que hace nuestra comunión.
Parce que les membres de Mère de Miséricorde ont le même envoi.
Porque los miembros de Madre de Misericordia tienen el mismo envío.
Et ils sont unis.
Y están unidos.
Pas parce qu'ils s'aiment bien les uns les autres.
No porque se amen unos a otros.
Ça, c'est pas si évident que ça. Hein?
Eso no es tan evidente.
Mais parce qu'ils partagent le même envoi.
Sino porque ellos comparten el mismo envío.
Ça, c'est ce qu'on appelle la maturité ecclésiale.
Y esto es lo que llamamos la madurez eclesial.
Trouver le lieu d'envoi.
Encontrar el lugar de envío.
Ou s'il n'existe pas, eh bien le susciter.
Y si no existe, suscitarlo.
Dans la seule mesure où ça se vit en communion avec l'Église, bien sûr.
En la medida en que eso, desde luego, se encuentre en comunión con la Iglesia.
Alors, c'était le premier point.
Este era el primer punto.
Je m'arrête là.
Aquí me paro.
On fera les quatre autres cet après-midi.
Y los cuatro siguientes los haremos esta tarde.
Mais j'espère que déjà ça vous donne quelques petites idées.
Tercera enseñanza.
Bien. ¿Estáis despiertos? Bueno.
On va essayer de se réveiller ensemble en se laissant interpeller.
Vamos a despertarnos todos juntos dejándose interpelar.
Puisque vous voulez prendre au sérieux la vocation qui est vôtre.
Ya que queréis tomar en serio vuestra vocación.
C'est très concret.
es muy concreto.
Et on passe tout de suite au second point.
Y se pasa enseguida al segundo punto.
Après avoir parlé de la conscience d'être envoyé.
Después de haber hablado de la conciencia de haber sido enviados.
Le deuxième point d'appui de la vocation du soignant.
El segundo punto de apoyo de la vocación del sanitario.
C'est marcher, non pas marcher. Prier.
Es la segunda, es la, es orar.
Prier comment?
¿Y cómo hay que orar?
Il y a de multiples manières de prier.
Hay múltiples maneras de orar.
Moi, je souhaite évoquer seulement deux manières.
Yo deseo evocar solamente dos formas de oración.
Qui sont fondamentales pour le soignant.
Que son fundamentales para el, sana, el que está en el sanitario.
La première manière, c'est la prière personnelle.
La primera forma es la oración personal.
Je ne parle pas de la participation à un groupe de prière.
Yo no hablo de la participación en un grupo de oración.
Ou à diverses célébrations.
O a distintas celebraciones.
Comme l'Eucharistie.
Como la Eucaristía.
Tout cela, c'est important.
Todo eso es importante.
Mais pour le soignant, il est important qu'il construise lui-même sa vie spirituelle.
Pero para el sanitario es importante que él mismo construya su vida espiritual.
Il ne peut pas oublier la prière un seul jour.
No puede olvidar la oración ni un solo día.
Il n'a pas toujours le temps de prier trois heures de suite.
Él no siempre tiene tiempo para orar tres horas seguidas.
Ce n'est pas une question de quantité.
No es una cuestión de cantidad.
C'est une question que chaque jour, il faudrait donner un temps à Dieu dans et pour la prière.
Es importante saber que todos los días hay que dar un tiempo a Dios en la oración y para la oración.
Même si ce n'est que 10 minutes.
Aunque solamente sean 10 minutos.
Mais donner un temps pour Dieu.
Pero dar un tiempo para Dios.
Un temps où nous n'avons pas d'autres activités.
Un tiempo donde no tenemos otras actividades.
Un temps que nous réservons pour parler au Seigneur.
Un tiempo que nosotros reservamos para hablar al Señor.
Et aussi pour écouter ce qu'il aurait à nous dire.
Y también para escuchar lo que quiere decirnos.
Car c'est cela la vraie prière personnelle.
Porque eso es la verdadera oración personal.
C'est un dialogue d'amour.
Es un diálogo de amor.
Où nous avons, nous, de notre côté, à apprendre à écouter Dieu.
Donde nosotros, por nuestro lado, tenemos que aprender a escuchar a Dios.
On n'a pas assez l'habitude de penser que Dieu nous parle.
Todavía no tenemos la costumbre de saber que Dios nos habla.
Parce qu'on pense que quand Dieu parle, il faudrait qu'on l'entende bien, comme on entend quelqu'un qui parle dans un micro.
Porque pensamos que cuando Dios nos habla tenemos que escucharle como si alguien nos hablara desde un micrófono.
Mais la plus grande manière pour Dieu de parler au cœur,
pero la forma mayor de Dios que nos habla al corazón,
c'est de le faire dans un silence plein.
Es hacerlo en un silencio completo.
Qu'est-ce que c'est le silence plein?
¿Qué es el silencio completo?
C'est un mouvement d'intériorité.
Es un movimiento de interioridad
où nous essayons de ne penser à rien des activités de notre journée.
Es un donde intentamos no pensar a nada de nuestras actividades diarias.
Et où nous voulons nous faire tout accueil comme si on allait recevoir quelque chose d'important.
Y es donde nosotros tenemos que querer acoger algo que vamos a recibir que es muy importante.
Et peut-être que nous aurons l'impression de ne rien recevoir.
Y quizás tengamos la impresión de que no recibimos nada.
Peut-être que nous aurons l'impression d'avoir perdu du temps.
Quizás tengamos la impresión de que estamos perdiendo el tiempo.
Peut-être que nous aurons l'impression l'impression qu'on aurait mieux fait d'aller soigner d'autres malades.
O quizás tengamos la impresión de que sería mejor ir a cuidar a otros enfermos.
C'est une erreur.
Eso es un error.
L'important pour le soignant, c'est de prendre un temps pour Dieu.
La importancia para el sanitario es tomar, coger un tiempo para Dios.
Et c'est un temps qu'il ne doit pas, comment dire, c'est un temps dans lequel il s'engage.
Es un tiempo en el que él se compromete.
Seigneur, puisque je suis médecin, puisque je suis infirmière,
Señor, ya que soy médico, ya que soy enfermera,
puisque j'ai une vocation de soignant,
ya que tengo una vocación de sanitario,
je te promets de prendre un temps de prière pour toi chaque jour.
Yo te prometo de tomar un tiempo de oración todos los días para ti.
Sauf si je suis malade.
A menos que yo esté enfermo.
Et des fois, quand on est malade, on peut prier plus longtemps que quand on n'est pas malade.
Y a veces, cuando estamos enfermos, podemos orar mucho más tiempo que cuando estamos activos.
Un temps de prière qui n'est pas un temps de demande.
Un tiempo de oración que no es un tiempo de petición.
C'est un temps où nous offrons notre présence à Dieu et seulement à Dieu.
Es un tiempo donde ofrecemos nuestra presencia a Dios y solamente a Dios.
C'est ça la vraie prière.
Esa es la verdadera oración.
C'est à vous de choisir si ce temps doit durer 10 minutes.
Y vosotros sois los que tenéis que elegir si esta oración va a durar 10 minutos.
Ou bien 20, ou bien 30.
O media hora o 20 minutos.
C'est votre problème.
Eso es vuestro problema.
Mais le soignant s'engage à prendre un temps pour Dieu.
Pero el sanitario toma un tiempo para Dios.
C'est sa force.
Eso es su fuerza.
C'est là où mystérieusement il puisera toute sa force.
Es ahí donde misteriosamente podrá recibir toda su fuerza.
Et c'est là aussi où il puisera l'éclosion de certains charismes.
Y es ahí donde él conseguirá la eclosión de ciertos carismas.
Tout spécialement le charisme de discernement.
Y especialmente el carisma de discernimiento.
Et nous verrons que c'est important le charisme du discernement pour les soignants.
Y nosotros veremos que es muy importante el carisma de discernimiento para los sanitarios.
Voilà, c'est d'accord pour le temps pour Dieu?
¿Estáis de acuerdo para tomar un tiempo para Dios?
Je n'en dirai pas plus.
Ya no diré más.
Mais la deuxième manière de prier pour le soignant.
Pero la segunda forma de oración para los sanitarios,
c'est l'intercession pour les malades qui lui sont confiés.
Es la intercesión por los enfermos que les son confiados.
Il est absolument normal que un soignant porte dans sa prière les personnes que le Seigneur lui confie.
Es absolutamente normal que el sanitario lleve a la oración las personas que el Señor le ha confiado.
Souvent, on pense que le soignant doit agir selon sa compétence.
A menudo pensamos que el sanitario tiene que actuar según su competencia.
Et qu'il doit laisser la prière pour ses malades à quelqu'un d'autre.
Y que a menudo debe dejar la oración para estos enfermos a otras personas.
Ce qui est faux.
Eso es falso.
De par sa vocation, le soignant doit prier pour ses malades.
Ya partiendo de su vocación, el sanitario debe orar por sus enfermos.
Pas forcément prier pour sa guérison.
No precisamente orar por su sanación.
Il doit prier pour présenter à Dieu ses malades.
Él debe orar para presentar a Dios a estos enfermos.
C'est une question de présentation de la personne qui souffre à la miséricorde de Dieu.
Es una presentación de esta persona que sufre ante Dios.
Et ça fait partie de la profession du soignant chrétien.
Y esto forma parte de la profesión del sanitario cristiano.
Il arrivera parfois,
a veces ocurrirá,
que dans le cadre de cette prière de présentation,
en el cuadro de esta oración de presentación,
Le soignant a envie de demander la guérison.
El sanitario tiene deseos de pedir la curación.
Il peut le faire avec prudence.
Lo puede hacer con prudencia.
Il peut le faire avec simplicité et confiance.
Lo puede hacer con sencillez y confianza.
Et il ne faut pas avoir de crainte pour cela.
Y no hay que tener miedo para ello.
Mais il faut le faire si l'Esprit Saint nous y invite.
Pero hay que hacerlo si el Espíritu Santo nos invita a ello.
Un malade n'est pas fait pour être guéri.
Un enfermo no está hecho para ser curado.
C'est pas comme ça que Dieu voit les choses.
No es así como Dios ve las cosas.
Un malade nous est donné pour être accompagné.
Un enfermo se nos da para ser acompañado.
Pour qu'il puisse vivre un chemin de rencontre avec Dieu.
Para que él pueda encontrar un camino para buscar a Dios, para encontrar a Dios.
Et qu'il puisse découvrir la miséricorde de Dieu pour lui.
Y que él pueda descubrir la misericordia de Dios para él.
À travers les soignants qui l'entourent.
A través del sanitario que está a su alrededor.
Si nous sommes invités à prier pour la guérison.
Si nosotros somos invitados a orar por la sanación.
Cela devient une motion particulière de l'Esprit Saint.
Esto se convierte en una moción especial del Espíritu Santo.
C'est une prière particulière en plus.
Es una oración especial además.
Mais ce n'est pas systématique.
Pero esto no es sistemático.
À ce fameux colloque sur la prière de guérison à Rome, au Vatican.
En este famoso coloquio en Roma sobre la oración de sanación.
On a beaucoup parlé de la simplicité qu'il y a de prier pour les malades.
Se ha hablado mucho de la sencillez que hay para orar por los enfermos.
Même sans le charisme de guérison.
Incluso sin el carisma de sanación.
Tout baptisé peut prier pour les malades.
Todo bautizado puede orar por los enfermos.
À condition qu'il le fasse avec prudence et confiance.
A condición de que lo haga con prudencia y confianza.
Et sans exiger de Dieu qu'il guérisse ce malade.
Y sin exigir de Dios que él sane a este enfermo.
Donc nous avons tous cette possibilité.
Así todos tenemos esta posibilidad.
Mais le soignant n'a pas à devenir guérisseur.
Pero el sanitario no tiene por qué convertirse en sanador.
Ça veut dire il n'a pas à vouloir que tout le monde guérisse entièrement.
Esto quiere decir que él no tiene que querer que todo el mundo se sane. Si es sane, y esto. Obligatoriamente.
Le soignant, en revanche, doit manifester la miséricorde de Dieu de plus en plus.
El sanitario debe manifestar la misericordia de Dios cada vez más.
Voilà, ça c'était le deuxième point.
Este era el segundo punto.
Le point de la prière.
El punto de la oración.
Et il est évident qu'on peut prier pour les malades.
Es evidente que podemos orar por los enfermos.
De manière simple et confiante.
De una forma muy sencilla y llena de confianza.
Que si en même temps on s'habitue à garder du temps pour Dieu.
Que si guardamos siempre un tiempo para Dios.
Y a rester en sa présence simplement.
Y a mantenerse en su presencia sencillamente.
¿Ok?
¿Está bien?
Ok. Troisième point.
El tercer punto.
Mais pas, on est en train de planter le soignant, hein?
Estamos intentando plantar los sanitarios.
D'accord.
¿Estáis de acuerdo?
Après, il faudra l'arroser.
Y luego tendremos que regarlo. Que luego tendremos que regarlo. Primero plantarlo y luego regarlo.
Le troisième point, c'est l'exercice de la miséricorde.
El tercer punto es el ejercicio de la misericordia.
C'est quelque chose de très concret.
Es algo muy concreto.
De très simple.
Muy sencillo.
Qui nous est à tous accessible.
Que es accesible a todos.
Mais que nous oublions trop souvent.
Que olvidamos demasiado a menudo.
Parce que l'exercice de la miséricorde ne va pas avec le souci d'efficacité de nos politiques de santé.
Porque el ejercicio de la misericordia no está en las preocupaciones de nuestros servicios de salud.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement exercer la miséricorde?
¿Qué quiere decir en concreto ejercer la misericordia?
Proche du malade.
La misericordia es estar, hacerse cercano a la... Es una cierta manera de hacerse cercano a la persona que está enferma.
Habitualmente, los soignants qui ne sont pas, qui n'ont pas la foi,
normalmente los sanitarios que no tienen fe,
considèrent les malades comme des étrangers.
Consideran a los enfermos como extraños.
Je prends le mot étranger dans son sens biblique.
Tomo el nombre extranjero como sentido bíblico.
Dans la Bible, il y a les deux mots en opposition.
En la Biblia hay dos palabras en oposición.
Il y a l'étranger.
Está el extranjero.
Et il y a en opposition l'ami.
Y en oposición a esta palabra está el amigo.
Dans notre pensée occidentale, on pense que le contraire de ami, c'est ennemi.
En el pensamiento occidental, la palabra opuesta amigo es enemigo.
Okay.
Está bien. Oui.
Mais dans la pensée biblique, non.
Pero en el pensamiento bíblico, no.
Dans la pensée biblique, il y a l'ami.
En el pensamiento bíblico está el amigo.
Et à l'opposé, il y a l'étranger.
Y en el lado opuesto está el extranjero.
La grande différence entre les deux.
La gran diferencia entre los dos.
C'est que si une personne est mon ami.
Es que si una persona es mi amiga.
Je peux entrer en relation de communion avec elle.
Yo puedo entrar en relación de comunión con ella.
Et vivre avec elle un partage.
Y vivir con esa persona una compartir.
Un échange.
Un intercambio.
Ça veut dire, elle a quelque chose à me donner et moi j'ai quelque chose à lui donner.
Es decir, que ella me tiene que dar a mí una cosa y yo tengo algo que darle a ella.
Et la relation entre soignant et soigné,
y la relación entre sanitario y persona curada,
c'est une relation d'amitié.
Es una relación de amistad.
C'est comme ça que Dieu voit les choses.
Así es como Dios ve las cosas.
C'est-à-dire que le soignant, il a quelque chose à donner à celui qui est malade.
Así el sanitario tiene algo que dar a aquella persona que está enferma.
Mais aussi, il doit savoir que le malade a quelque chose à lui donner aussi.
Pero también tiene que saber que el enfermo tiene algo que darle a él.
Il n'y a donc pas de relation de pouvoir.
Así no hay ninguna relación de poder.
Du soignant sur le malade.
De el sanitario sobre el enfermo.
Ni une relation de supériorité.
Ni una relación de superioridad. Del sanitario sobre el enfermo.
C'est une relation d'amitié.
Es una relación de amistad.
Il y a, et c'est ainsi que entre le malade et le soignant peut grandir ce qu'on appelle la communion.
Y así se puede decir que se adquiere esa comunión entre el sanitario y el enfermo.
Et l'un des plus grands, l'un des points les plus importants de la communion.
Y uno de los puntos más importantes de la comunión
es la confianza mutuelle.
Es la confianza mutua.
La confiance mutuelle, hein, c'est la base de ce que la Bible appelle la relation d'amitié.
La confianza mutua es lo que la Biblia llama la relación de amistad.
Et c'est très concret.
Y es muy concreto.
Je vais prendre deux exemples.
Yo voy a tomar dos ejemplos.
L'exemple de la maison que nous avons à la communauté des béatitudes à Cordes.
El ejemplo de la casa que tenemos en la en las bienaventuranzas en Cordes.
Qui est une maison où, qui a pour vocation d'accueillir des mourants.
Es una casa que tiene por su vocación es acoger a los que están, a los moribundos.
Nous accompagnons les mourants jusqu'à la fin de leur vie.
Acompañamos a los moribundos hasta el fin de su vida.
Et vous devinez que ce n'est pas facile du tout.
Como podéis adivinar, no es en absoluto fácil.
Et que pour ceux qui savent qu'ils vont mourir bientôt,
y para aquellos que saben que van a morir pronto,
c'est un chemin très difficile et sans doute douloureux.
Es un camino muy difícil y sin duda doloroso.
S'ils étaient seuls, ce serait une porte ouverte au désespoir.
Si estuvieran solos, sería una puerta abierta a la desesperación.
Mais ils sont accompagnés par une équipe de soignants.
Pero están acompañados por un equipo de sanitarios.
Et nous pouvons les aider à grandir dans, comment dire, dans l'espérance et dans la conscience de que leur vie est importante.
Y podemos ayudarles a que ellos crezcan en la confianza y en la importancia que su vida es, de que su vida es importante.
Et les aider à grandir dans la paix intérieure.
Y poder ayudarles a crecer en la paz interior.
Mais ceci n'est possible.
Pero esto solo es posible
que parce que une relation de confiance mutuelle s'est établie,
es porque se establece una relación de confianza mutua
entre le mourant et plusieurs personnes de l'équipe soignante.
Y entre esta relación entre el moribundo y varias personas del equipo de sanitarios.
Sans cette confiance mutuelle,
sin esta confianza mutua,
il y a des étapes de, comment dire, de l'existence vers la mort.
Hay ciertas etapas de existencia hacia la muerte
qui ne peuvent pas être vécues,
que no pueden ser vividas.
Et un accompagnement de mourants est réussi.
Y se consigue un acompañamiento de los moribundos
lorsque la personne rejoint le Seigneur dans la paix.
Cuando la persona se encuentra con el Señor en la paz,
et en étant suffisamment réconciliée avec elle-même,
y estando suficientemente reconciliada consigo misma,
c'est grâce à la confiance.
Eso es gracias a la confianza.
Une confiance progressive.
Una confianza progresiva.
Et qu'il faut, dont il faut faire l'apprentissage.
De la cual hay que hacer un aprendizaje.
Jour après jour.
Día tras día.
Je prends un autre exemple, analogue.
Voy a tomar otro ejemplo parecido.
À Mère de Miséricorde, nous faisons de l'accompagnement de ce qu'on appelle la blessure de la vie.
En Madre de Misericordia hacemos el acompañamiento de la herida de la vida.
C'est-à-dire que ce sont des personnes.
Es decir, que son personas
qui ont été profondément blessées.
Que han sido profundamente heridas.
Au-delà de leur psychisme.
Más allá de su psiquismo.
Au-delà de leur sensibilité.
Más allá de su sensibilidad.
Ou de leur affectivité.
O de su afectividad.
C'est au niveau de leur vie même qu'ils sont blessés.
Es al nivel de su vida misma que son heridos.
On verra un peu plus tard ce que veut dire la notion de vie.
Un poco más tarde veremos lo que es la noción de vida.
Mais ces personnes-là qui sont blessées au niveau profond de leur être, qui s'appelle la vie,
estas personas que están heridas en el nivel profundo de su ser, que es la vida,
elles sont porteuses de comment dire, d'un symptôme, de symptômes terrible et pas toujours conscient.
Ellas llevan un síntoma terrible que muchas veces no es consciente.
En termes de profond désespoir sur soi-même.
En términos de una profunda desesperación sobre sí mismos.
En termes de ce que j'appelle la solitude maligne.
También en términos de lo que yo llamo la soledad maligna.
Et d'être ainsi enfermé en soi-même d'une manière comme si on était prisonnier en soi-même et qu'on ne pourra jamais sortir.
Y de una forma como si fueran prisioneros de sí mismos y no pudieran salir de ahí.
Et avec cette solitude maligne, la personne pense que personne ne peut l'aider.
Y con esa soledad maligna, la persona piensa que nadie le puede ayudar.
Qu'il n'y a plus de solution possible pour elle.
Que ya no hay solución para ella.
Et le troisième symptôme d'une blessure de la vie.
Y el tercer síntoma de una herida de la vida.
C'est ce qu'on appelle la fausse identité.
Es lo que se llama la falsa identidad.
C'est-à-dire que parce que elle est désespérée sur elle-même.
Es decir, que porque ella está desesperada sobre sí misma.
La personne va adopter des comportements qui ne sont pas selon son identité.
La persona va a adoptar unos comportamientos que no son según su identidad.
C'est ainsi que certains vont par exemple choisir des déséquilibres sexuels.
Hay algunos que por ejemplo van a adquirir unos desequilibrios sexuales, por ejemplo.
Il y a un certain nombre d'homosexualités dont la raison c'est la blessure de la vie.
Hay algún cierto número de homosexuales que tienen su razón en la herida de la vida.
Mais elle peut choisir d'autres comment dire fausses identités.
Pero también pueden adquirir otras falsas identidades,
comme par exemple des tendances suicidaires,
como por ejemplo tendencias al suicidio,
ou des tendances à la drogue.
O tendencia a la droga,
toutes sortes de faux, de mauvais comportements,
todo tipo de malos comportamientos
qu'elle n'a pas choisi en fait,
que ella de verdad no ha elegido,
mais qu'elle subit,
pero que sufre,
parce qu'elle est tellement désespérée sur elle-même,
porque ella está tan desesperada sobre sí misma,
qu'elle pense que sa vie c'est comme ça, que sa vie c'est être dans la drogue, que sa vie c'est être dans le suicide, que sa vie c'est être dans la perversion sexuelle.
Que ella piensa que su vida está en esa perversión sexual, en el suicidio o en un comportamiento en la droga.
Souvent, ces personnes, ce sont celles qui ont été, comment dire, violentées dans leur intégrité.
Esto a menudo son personas que han sido violentadas en su integridad.
Avec les questions de viol répétés ou bien d'inceste, de choses de ce genre.
Comme par exemple une violation répétée ou inceste.
Ou encore de blessures profondes liées à la paternité.
Ou también heridas profundas unidas a la paternidad.
Je ne veux pas en dire plus là-dessus.
Ya no voy a hablar más sobre ello.
Ce que je veux dire, c'est que, avec une telle profondeur de détresse intérieure,
quiero decir que con una profundidad tan grande de desesperación en ellas,
la psicología no suffit pas.
No es suficiente la psicología.
Pourtant, la psicología a beaucoup d'intérêt.
Sin embargo, la psicología tiene mucho, interesa mucho.
O la psiquiatría.
O la psiquiatría.
Mais là, c'est insuffisant.
Pero ahí no es suficiente.
Car ça va plus loin.
Porque
la dimensión psicológica de la persona.
Porque eso va más lejos que la dimensión psicológica de la persona.
Et on peut l'aider et on peut aider une personne à vivre un chemin de résurrection intérieure.
Y se le puede ayudar, pueden ayudar a una persona a una sanación interior
qui est parfois très difficile,
que a veces es muy difícil,
si on réussit à établir une relation de confiance mutuelle.
Si se consigue hacer una relación de confianza mutua.
C'est la relation d'amitié.
Esta es la relación de amistad.
Au sens biblique.
En el sentido bíblico.
Alors que l'étranger,
así pues, el extranjero,
c'est quelqu'un que l'on aime bien.
Es alguien que queremos.
L'étranger, c'est pas forcément un ennemi.
El extranjero no es un enemigo.
Mais c'est quelqu'un avec qui on ne peut pas partager.
Pero es alguien con el que no podemos compartir.
Même si on lui manifeste de la sympathie.
Incluso aunque le manifestemos simpatía.
C'est quelqu'un avec lequel il n'est pas donné de vivre. Le Seigneur ne permet pas encore que nous ayons quelque chose à donner et quelque chose à recevoir de lui.
Es una relación que el Señor permite que no haya una relación en la que nosotros podemos dar y podemos recibir de esa persona.
Alors voilà, la proximité de la miséricorde.
Aquí tenemos la proximidad de la misericordia.
C'est une question d'amitié.
Es una cuestión de amistad.
C'est une question où nous avons à partager avec l'autre.
Es una cuestión que tenemos que compartir con el otro.
Quelques grands gestes de miséricorde simples.
Algunos grandes gestos de misericordia sencillos.
L'une des plus grandes miséricordes, c'est d'être à l'écoute.
Una de las mayores misericordias es estar abiertos a la escucha.
Je l'ai évoqué déjà un peu ce matin.
Ya lo he dicho un poco esta mañana.
Rester disponible pour écouter quelqu'un qui souffre.
Estar disponibles para escuchar a alguien que sufre.
Ça veut pas dire qu'on va passer des heures avec lui pour qu'il raconte toute sa vie de souffrance.
No quiere decir que vayamos a estar horas con esa persona para que nos cuente toda su vida y todos sus sufrimientos.
Ça veut dire qu'on reste un temps auprès de lui.
Quiere decir que estemos un tiempo cerca de él.
Où le malade sent que on est là pour lui.
Donde el enfermo sienta que estamos ahí para él.
On n'est pas seulement là pour sa maladie.
No estamos solo ahí para su enfermedad.
On est là pour être à ses côtés.
Estamos ahí para estar a su lado.
Peut-être quelques instants seulement.
Quizás unos instantes nada más.
Et si on peut, eh bien on peut lui proposer de parler, d'exprimer certaines choses plus profondes.
Y si podemos, podemos hablar y ver si él quiere expresar cosas más profundas.
Ça, c'est très important.
Eso es muy importante.
La miséricorde, c'est aussi une question de tendresse.
La misericordia también es una cuestión de ternura.
Qu'est-ce que ça veut dire tendresse, là?
¿Qué quiere decir ternura en ese ahí?
Vous savez, Jésus, quand il guérissait les malades,
¿sabéis que Jesús cuando sanaba a los enfermos,
il aimait bien, comment dire, il aimait bien toucher le corps de la personne malade.
A él le gustaba mucho tocar a la persona, el cuerpo de la persona enferma.
Il y avait un contact physique très simple.
Había un contacto físico muy sencillo.
Et très chaste.
Y muy casto.
Et c'était vraiment de l'ordre de la tendresse, ce contact physique.
Y ese contacto físico era un signo de ternura.
Il y a des personnes, il y a beaucoup de personnes malades, et pas seulement les enfants malades.
Hay muchas personas enfermas, no solamente los niños enfermos,
qui aimeraient beaucoup vivre des moments, même brefs, de ce contact physique.
Que les gustaría vivir momentos de ese contacto físico, aunque fueran muy breves.
Je prends l'exemple encore une fois des mourants.
Voy a tomar el ejemplo de los moribundos.
Surtout quand les mourants ont des difficultés à communiquer.
Sobre todo cuando los moribundos tienen dificultad de comunicarse.
Eh bien, quand simplement le soignant pose la main sur sa main.
Simplemente cuando la persona pone la mano sobre el moribundo.
O que lui caresse le visage.
O que le acaricie la cara.
C'est tout simple.
Es muy sencillo.
C'est gratuit.
Es gratuito.
Ce n'est pas un acte professionnel.
No es un acto profesional.
Mais c'est vraiment une miséricorde.
Pero verdaderamente es una misericordia.
Et beaucoup de personnes malades sont très rassurées par ce geste de miséricorde.
Y muchas personas enfermas están reaseguradas, se sienten tranquilas porque ese gesto que se les hace.
Il y a des gestes de tendresse qui sont plus professionnels.
hay gestos de ternura que son más profesionales.
Ce sont les gestes de technique que le soignant, fait classiquement.
Son gestos técnicos que el sanitario hace clásicamente.
Mais je prends par exemple, je prends l'exemple d'une infirmière qui doit faire une intraveineuse à un malade.
Tomo el ejemplo de una enfermera que tiene que hacer una intravenosa a un enfermo.
Elle peut arriver près du malade seulement en tant que technicienne.
Ella puede acercarse al enfermo como un buen técnico.
Elle peut prendre son coton, imbibé d'alcool et frotter comme ça sur le bras.
Ella puede tomar el algodón y frotarle el brazo.
Et puis elle joue avec sa petite seringue devant sous les yeux du malade.
Y también puede jugar con la jeringa delante de los ojos del enfermo.
Comme si personne n'existait autour d'elle.
Como si no hubiera nadie a su alrededor.
Et puis après, elle regarde que le bras.
Ella después solo mira el brazo.
Elle regarde pas le malade.
No mira al enfermo.
Et elle pique, schlac.
Y pincha.
Elle peut très bien piquer.
Ella puede pinchar muy bien.
Je ne dis pas qu'elle fait mal.
Yo no lo digo, digo que lo haga mal.
Bon, eh bien, elle injecte son produit.
Ella inyecta el producto.
Elle enlève la seringue.
Ella quita la jeringa.
Elle met tout ça à la poubelle et elle s'en va.
Y tira eso a la basura y se marcha.
Voilà un acte de technique qui est bien réalisé.
Ahí tenéis un acto técnico que está muy bien hecho.
Et il n'y a pas un gramme de miséricorde dedans.
Pero no hay ni un gramo de misericordia ahí.
Mais j'ai rien contre les infirmières.
No tengo nada en contra de las enfermeras.
Je pourrais dire la même chose des médecins.
Podría decir lo mismo de los médicos.
Quand ils ont à faire des ponctions lombaires, par exemple.
Por ejemplo, cuando hacen una punción lumbar.
L'important, c'est de savoir que le soignant chrétien.
Lo importante es saber que el sanador, el sanitario cristiano,
peut mettre sa spiritualité au service de l'acte qu'il accomplit.
Puede poner su espiritualidad al servicio del acto que está haciendo.
Et si l'infirmière de la même histoire,
y si la enfermera de esa misma historia,
arrive près du malade dans la chambre d'hôpital,
llega a los pies de la cama del enfermo del hospital,
qu'elle le regarde avec sympathie,
que le mire con simpatía,
qu'elle lui sourit,
que le sonría.
Le sourire est une miséricorde.
La sonrisa es una misericordia.
Quand Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a vu le sourire de la Sainte Vierge,
cuando Santa Teresa del Niño Jesús vio la sonrisa de la Santísima Virgen,
elle a expérimenté la miséricorde de Dieu.
Ella experimentó la misericordia de Dios.
Et si cette même infirmière fait le même geste technique,
y si esta misma enfermera hace el mismo gesto técnico,
mais avec douceur,
pero con suavidad,
en parlant à la personne d'une manière rassurante,
hablando a la persona de una forma que le reafirme,
en lui expliquant simplement ce qu'elle va faire,
explicándole sencillamente lo que va a hacer.
Et puis, après, une fois que l'acte est fini, qu'elle ne s'en va, ça n'aille pas tout de suite, mais qu'elle reste encore un petit instant pour être gratuitement là.
Y cuando ella termina su acto, en vez de marcharse corriendo, mantenerse unos segundos ahí al lado del enfermo, gratuitamente. Es un acto gratuito para el enfermo.
Pour que la personne malade saisisse que l'infirmière n'est pas venue que pour la piqûre.
Para que la persona enferma se dé cuenta de que la enfermera no solamente ha venido para ponerle la inyección,
mais elle est venue pour la piqûre et pour la rencontre.
Pero que ella ha venido para darle, ponerle la inyección y para tener un encuentro con él.
Alors ça, c'est la miséricorde.
Eso es misericordia.
Et on pourrait, dans toutes les circonstances très concrètes de notre exercice professionnel,
y ella podía, en todas las circunstancias de nuestra forma profesional, ejercicio profesional,
on pourrait trouver comment grandir dans la miséricorde.
Podíamos encontrar cómo crecer en la misericordia.
Il faut nous convertir à la miséricorde.
Tenemos que convertirnos a la misericordia.
La miséricorde est une question de regard.
La misericordia es una cuestión de mirar.
Comment regardez-vous votre malade?
¿Cómo miráis vosotros a vuestros enfermos?
¿Es que se sont respectés dans votre regard?
¿Es que se sienten respetados en vuestra mirada?
¿Es que dans votre regard il pressent que sa vie a de l'importance?
¿Es que en su vuestra mirada ese enfermo ve que su vida tiene importancia?
C'est aussi une question de parole.
También es una cuestión de palabras.
Qu'est-ce que vous dites à votre malade?
¿Qué decís a vuestros enfermos?
Ou parfois si vous n'avez rien à lui dire.
O a veces si no tenéis nada que decirles.
Est-ce que vous acceptez de rester à ses côtés en silence?
¿Es que aceptáis manteneros a su lado en silencio?
Sans le fuir.
Sin huir de él.
Puis la miséricorde est aussi donc une question de geste.
Así pues, la misericordia también es una cuestión de gestos.
J'en ai parlé, les actes concrets techniques.
Os he hablado de los actos concretos técnicos.
Mais la miséricorde, dans les actes, ça va encore plus loin que les gestes techniques.
La misericordia en los actos va más lejos que los gestos técnicos.
Ça peut aller jusque dans les projets.
Puede ir hasta los proyectos.
C'est-à-dire, décider de concrétiser quelque chose que l'on a à cœur.
Es decidir concretar algo que tenemos en el corazón.
Pour le bien des malades.
Para el bien de los enfermos.
Catégorie de malades.
Para el bien de una categoría de los enfermos.
Oser faire des projets.
Atreverse a hacer proyectos.
Ça, c'est l'audace de la miséricorde.
Esa es la audacia de la misericordia.
Surtout quand on veut que ces projets ce ne soient pas tout seul qu'on le réalise.
Sobre todo cuando vemos que este proyecto no se realiza solo,
mais qu'on soit à plusieurs,
sino que sea un grupo, que sean varios.
Ça, c'est ce qu'on appelle la logistique de la miséricorde.
Esto es lo que llamamos la logística de la misericordia.
Vous voyez, il y a beaucoup de richesses à trouver dans l'expérience de la miséricorde.
Como veis, hay muchas riquezas que se encuentran que hay que encontrar en la riqueza de la misericordia.
Normalement, quand je parle de la miséricorde, il me faut une semaine.
Normalmente, cuando hablo de la misericordia, necesito una semana.
Donc là, ça fait 10 minutes, ça suffit.
Esto han sido 10 minutos, pero ya es suficiente.
Et on va passer à l'autre point.
Vamos a pasar al otro punto.
C'est ce que nous avons évoqué,
lo que acabamos de evocar
ce matin,
esta mañana,
la vocation du soignant,
la vocación del sanitario,
c'est de, comment dire, de ne pas être tout seul,
es de no estar solo,
pour exercer sa vocation, hein.
Para ejercer su vocación.
C'est-à-dire rechercher la communion.
Es decir, buscar la comunión.
C'est-à-dire chercher à être plusieurs pour faire l'œuvre de Dieu pour laquelle nous sommes envoyés.
Es decir, intentar que haya varios para ejercer la profesión, la voluntad de Dios en la profesión.
Qu'est-ce que c'est la communion à ce niveau-là?
¿Qué es la comunión en este nivel?
Ce n'est pas du même ordre que la communion avec le malade.
No, es solamente la comunión con el enfermo.
Même s'il y a des points communs.
Incluso aunque haya puntos comunes.
Être en communion, cela veut dire quoi?
¿Qué quiere decir estar en comunión?
Cela ne veut pas dire être bien ensemble.
Eso no quiere decir que estemos bien juntos.
Cela ne veut pas dire prier ensemble.
Eso no quiere decir que oremos juntos.
Cela ne veut pas dire avoir des bons sentiments les uns pour les autres.
Eso no quiere decir tener buenos sentimientos unos por otros.
Cela veut dire être réunis autour de Jésus.
Eso quiere decir estar reunidos alrededor de Jesús.
Mais réunis autour de Jésus qui nous envoie.
Pero estar reunidos alrededor de Jesús que nos envía.
Et vous imaginez l'Évangile.
¿Os imagináis el Evangelio?
Jésus passe toute une nuit à prier sur la montagne.
Jesús pasa toda una vida para orar en la montaña.
Et au matin, il redescend de la montagne.
Y por la mañana él vuelve a bajar de la montaña.
Il regarde tous ses disciples.
Y mira a todos sus discípulos.
Qui étaient très nombreux.
Que eran muy numerosos.
Et il en choisit 12.
Y elige a 12.
Ils vont devenir les apôtres.
Y van a ser los apóstoles.
Ils sont en communion, les 12.
Y los 12 están en comunión.
Pourtant, il y a des tensions entre eux, des fois.
Pero a veces también hay tensiones entre ellos.
Ils ne sont pas saints.
Ellos no son santos.
Oula, pas du tout.
No, en absoluto.
Mais Jésus leur fait le don de la communion.
Pero Jesús les da el don de la comunión.
En distinción d'avec tous les autres disciples.
En distinguiéndolos de todos los demás discípulos.
Cela ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que les autres disciples.
Eso no quiere decir que sean mejores que los otros discípulos.
Mais cela veut dire que Jésus a une parole d'envoi unique pour les douze.
Pero eso quiere decir que Jesús tiene una palabra de envío único para esos dos.
Et c'est cette parole d'envoi qui fait qu'ils sont